Alors veille, j'avais pensé à ce thème en particulier cette semaine. Je ne l'ai pas retenu, mais ce n'est pas très loin ce que je vais vous apporter aujourd'hui au chapitre 17 de la premier livre des rois, versets 8 à 16. Alors il s'agit du prophète Élie, et le prophète Élie apparaît comme cela, soudainement, juste au début du chapitre 17, mais comme si c'était, on peut dire, un prophète tout simple, mais il va s'avérer que Élie est le grand prophète de ce temps-là. Alors, on va prier, puis ensuite on va lire ce texte. Seigneur Dieu notre Père, nous sommes devant toi par ta grâce puissante, avec ta parole, et nous te demandons l'assistance de ton Saint-Esprit pour recevoir ta parole, Seigneur notre Dieu. Que nous soyons instruits, édifiés et vraiment recevant de toi pour vivre cette parole dans la foi. Amen. Alors voilà, je lis. Bon, je vais lire à partir du verset 1, parce que comme ça nous met le contexte. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai. » Et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà donc ce prophète qui apparaît, qui n'est pas encore connu, mais son Dieu est connu, puisque cette femme dit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant ». L'Éternel était bien connu, mais par contre, il fallait pouvoir lui faire confiance, écouter ce qu'il avait à apporter à son peuple, car c'est un temps, le temps d'Akab, qui est un temps de corruption spirituelle, un temps d'idolâtrie, malheureusement, au sein du peuple d'Israël. Et c'est ce qui amène cette situation de sécheresse, sécheresse totale, plus aucune pluie, sinon à la parole du prophète. Bon, ça peut nous donner à réfléchir sur ce qui se passe actuellement dans notre monde, sur la planète tout entière. Le dérèglement climatique est dans la main de Dieu aussi. Pas seulement un fait comme ça de l'histoire géologique de la planète. C'est aussi donc ce qui est permis et voulu par Dieu pour amener les hommes dans une situation où ils soient obligés de, eh bien, d'attendre sa parole, de recevoir sa parole, et ainsi de bénéficier à nouveau de toute la bénédiction qui vient par la parole de Dieu. Car la parole du Seigneur, en venant sur la terre, eh bien, apporte les bénédictions spirituelles, mais aussi les bénédictions physiques, matérielles. Tout est sous le contrôle de la parole de Dieu. Et voilà, le prophète annonce, et ensuite Dieu lui donne le moyen de subsister dans ce contexte-là, avec, voilà, tout simplement, encore une fois, les éléments de la nature qui sont sous le contrôle de Dieu, puisqu'ici ce sont des corbeaux qui vont apporter au prophète du pain et de la viande le matin et le soir. Alors on a... Moi j'aime bien cette référence aux corbeaux, puisqu'ils sont souvent décrits comme étant des oiseaux de malheur. Eh bien, dans la parole, ici, ils sont des annonciateurs de la parole de Dieu, ils apportent la nourriture aux prophètes. Comme quoi, c'est toute créature est donc dans la main de Dieu, est une créature de Dieu pour apporter au bon moment le bien qu'il faut. Alors, ils buvaient de l'eau du torrent. Là, c'est encore l'élément naturel. Mais voilà, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Et là, le Seigneur ne va pas faire un nouveau miracle particulier dans cet endroit-là pour le prophète. Il ne va pas lui faire couler de l'eau indéfiniment pour lui seul. Il va déplacer le miracle. Il va déplacer le miracle pour que quelqu'un d'autre bénéficie de la parole du Seigneur. Quelqu'un qui est dans l'attente, une veuve. Que nous apprend cette veuve? Je pense que déjà, c'est pas pour rien que souvent les veuves sont mentionnées dans l'Écriture. Elles sont prises en exemple dans l'Ancien Testament, elles sont mentionnées par Jésus dans le Nouveau Testament. Le veuvage indique que la condition humaine est souvent contrariée. Cette femme s'était mariée, elle avait eu un fils, et elle se retrouvait veuve. Tout son projet, tout son avenir était compromis parce que son mari était décédé. Et voilà, ça c'est une situation qui se rencontre, je dirais presque à l'infini, sur la terre, dans la vie de l'humanité. Tout le bonheur, l'espoir que l'on peut mettre dans une vie bien construite, bien établie sur la terre, est réduit à rien. Toute la sécurité qui découlait de la vie avec un mari, eh bien cette femme, cette épouse l'a perdue. Et elle l'a perdue assez jeune, puisqu'en fait ce fils, nous le voyons dans la suite, semble être encore enfant, puisqu'il va mourir, le prophète va le porter dans ses bras, l'amener donc dans la chambre, et puis ensuite lui rendre la vie. Mais donc on voit qu'il s'agit d'un enfant qui était jeune. Donc cette femme est encore jeune. C'est pas une, vous voyez, comme on peut le penser, une vieille veuve, hein, bon, qui aurait fait sa vie, et puis ensuite son mari finit par décéder, comme cela arrive de toute façon, l'un ou l'autre. Et voilà, elle se retrouve veuve à la fin de sa vie. Non, elle a encore sa vie devant elle, et elle doit renoncer finalement à cette sécurité et ce bonheur de vivre avec son mari et peut-être d'avoir une famille qui continue à se développer. Donc la condition humaine est souvent contrariée. Mais voilà, la vie est précieuse, même lorsqu'elle arrive à son terme, puisque son terme en tout cas supposé, puisque cette jeune femme, veuve, dit au prophète, alors elle est en train de ramasser du bois, et elle dit au prophète, voici je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Cette femme, en fait, bien que la condition soit extrême, elle continue à vivre tout en étant convaincue que ça y est, c'est la fin maintenant. Elle continue à vivre en ramassant le bois et en préparant le peu qu'elle a pour vivre. Elle continue à espérer dans cette vie et à la trouver digne d'être vécue avec le peu qu'elle a, et même si elle doit mourir, eh bien, avec son fils, jusqu'au bout, elle aura vécu comme tout un chacun, en mettant une pleine confiance, en appréciant la vie que Dieu lui a accordée. Donc, elle est courageuse. Elle ne dit pas, c'est fini, de toute façon, pour le peu qui nous reste à vivre, je n'ai pas la peine que j'aille ramasser du bois, que je m'ennuie à cuire encore une fois mon pain. Hein? Non, elle va jusqu'au bout dans ce qu'elle pense être la fin de sa vie. Et je pense que c'est une leçon à retenir pour nous aujourd'hui concernant le respect de la vie, concernant le désir de vivre pleinement notre vie, même dans la faiblesse extrême parfois au terme de cette vie. Mais voilà ce que nous apprend cette femme, c'est que Dieu dirige sa grâce vers ceux qu'il connaît, tous ceux qu'il a connu d'avance. Et ici donc, Dieu déplace le lieu du miracle pour répondre aux besoins de la veuve tout en soutenant son serviteur. Ce n'est plus le prophète seul qui va être aidé, c'est cette femme veuve qui va être aidée en aidant le prophète. Donc Dieu va multiplier sa grâce. Dieu va bénir son serviteur tout en bénissant cette femme qui va lui faire confiance. Donc, voilà, le Seigneur tient compte. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui font confiance. Et il peut répondre à tous leurs besoins. Donc c'est, on peut dire, la première conclusion à retenir de ce texte, c'est que plusieurs facteurs peuvent se conjuguer pour donner finalement peu d'attrait à la vie humaine. Cela n'empêche pas cette vie d'être précieuse. Et celui qui croit doit savoir que Dieu a le regard sur lui, sur elle, je dirais même en particulier, car ce sont souvent les femmes qui se retrouvent en situation difficile et qui ont perdu le soutien dont elles auraient besoin. On peut lire deux, bien sûr, références à ce sujet, 2 Chroniques 16, verset 9. Parce que là, il s'agit d'un roi qui, justement, c'est Asa, qui a eu recours, on peut dire, à un autre roi païen, plutôt que de s'appuyer sur Dieu. Et le prophète qui vient lui parler, lui dit, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Partout dans le monde où quelqu'un se confie totalement dans le Seigneur, dont le cœur est au Seigneur, les regards du Seigneur sont sur lui ou sur elle. Et puis, dans le prophète Ésaïe, chapitre 62, verset 2, vous connaissez ces passages, 66, pardon, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Voici sur qui je porterai mes regards. Quelqu'un qui ne souffre pas seulement, on peut dire, voilà, pas seulement quelqu'un qui souffre, mais sur quelqu'un qui souffre, mais qui craint la parole du Seigneur, qui a vraiment son esprit, qui en lui-même, alors qu'il est en train de souffrir, eh bien, se tourne vers le Seigneur, cherche le Seigneur, s'humilie devant le Seigneur, pas seulement est abattu dans le sens de découragé, mais est humble devant Dieu pour recevoir du Seigneur ce qu'il a pour lui. On dirait que le chrétien, par sa position d'étranger à ce monde mauvais, est associé aux pauvres et se retrouve plus que d'autres à ne devoir compter que sur Dieu. Et combien c'est le cas pour bien de nos frères et sœurs actuellement qui sont dans les situations de persécution où ils doivent fuir, tout abandonner. Et là, on voyait que en Syrie, donc actuellement, ces jours-ci, alors ceux qui avaient été persécutés par Daesh, eh bien, s'étaient déplacés, étaient dans des camps de réfugiés, etc. Hein, s'étaient réfugiés dans une partie de la Syrie. Et voilà que la guerre maintenant se déclenche à nouveau. Et ils doivent à nouveau fuir, ils doivent à nouveau tout quitter, ils doivent à nouveau chercher un autre lieu de refuge. Et cette situation s'est créée principalement parce qu'ils sont chrétiens. Alors, le chrétien est quand même régulièrement associé à ceux qui sont pauvres. Il vit chichement, mais dignement. D'autant plus lorsque la crise vient dans le monde, parce qu'il refuse d'être dans des positions en vue dans ce monde, il refuse d'être dans des places où il peut dominer les autres, eh bien, il se retrouve en difficulté, tout naturellement associé à ceux dont la condition est la moindre dans ce monde. Et d'une manière générale, Le chrétien ne doit pas rêver à une vie brillante, à une vie sous les feux de la rampe. Ce n'est pas la condition du chrétien. La condition du chrétien, c'est d'être associé dans son cœur à tous ceux dont la, voilà, qui souffrent dans ce monde, dont la position est humble au sein de ce monde. Et là, eh bien, il met sa confiance dans le Seigneur. Il s'appuie sur son Dieu. Et combien de chrétiens, bien sûr, sont aussi éprouvés dans la vie par des situations aussi de perte, de veuvage, et où ils doivent faire face dignement, donc, ou d'abandon, hein, de la part de leurs conjoints, parfois, qui ne supportent pas leur engagement avec le Seigneur, et ils doivent faire face à la vie dans une condition qui est, voilà, qui est diminuée, et il faut reconnaître que c'est... À ce moment-là, il faut vraiment être capable de mettre sa confiance dans le Seigneur, de se réjouir de la parole du Seigneur quand il n'y a plus de raison, on peut dire, d'aimer la vie selon le monde. Oui, c'est la condition de beaucoup de nos frères et sœurs, et c'est l'état d'esprit dans lequel nous devons rester. Mais voilà! Cette veuve nous apprend quelque chose d'autre, d'essentiel. Elle nous apprend à recevoir le Seigneur et la parole de Dieu par la foi. Car cette femme n'est pas une femme du pays d'Israël, et pourtant elle croit au Dieu d'Israël. Jésus prend exemple de cette femme dans l'Évangile. Luc chapitre 4, versets 24 à 26. Alors qu'il est à Nazareth, sa patrie, et qu'il n'est pas bien reçu par les siens, Jésus dit, « En vérité, ajouta-t-il, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Il y avait, dit Jésus, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Et Élie n'a pas été envoyé vers ces veuves en Israël. Il a été envoyé vers cette veuve à Sarepta. Pourquoi ? Parce que les veuves en Israël n'aurait pas été prête à recevoir Élie comme le prophète de Dieu, à recevoir la parole qu'il allait dire, à mettre ainsi à sa disposition le peu qu'elles avaient en croyant que le Seigneur allait pourvoir ensuite. Non, elle ne l'aurait pas fait, elle qui était sous la loi, qui connaissait Dieu à travers sa loi, elle n'aurait pas eu, dit Jésus, cette capacité. Et c'est une femme de l'extérieur d'Israël qui était prête à mettre sa confiance dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu lui-même, à travers le prophète. Elle a reçu, cette femme, la parole de Dieu donnée par le prophète. C'est ça qui compte. C'est recevoir la parole de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 10, 40 à 40 à 42, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ce qui importe, c'est d'être attentif à la parole de Dieu, de faire abstraction des personnes, de ceux que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Ce qui compte, c'est de recevoir la parole de Dieu lorsqu'elle nous est adressée. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 20, l'apôtre rappelle ceci. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ne méprisez pas les prophéties. Et la précision, ou le don de prophétie. Le fait que quelqu'un parle de la part de Dieu, nous adresse une parole de la part de Dieu. Et combien nous avons besoin, dans un contexte où nous nous connaissons, où nous nous connaissons humainement, où nous parlons, où nous nous côtoyons, où nous connaissons nos caractères, nos tendances, etc., entre nous, dans une assemblée, de faire abstraction de la personne humaine pour discerner ce que Dieu nous dit, pour discerner là où c'est Dieu qui parle, là où c'est Dieu qui nous adresse une parole pour lui faire confiance, une parole pour nous engager, une parole. Si nous arrêtons à la personne humaine, à simplement sa parole à lui, à ses pensées à lui ou elle, eh bien, voilà, nous recevons et nous pouvons, on peut dire, négliger une parole qui nous est adressée par quelqu'un qui parlerait humainement. Mais lorsque c'est l'esprit qui parle à travers un de nos frères, une de nos sœurs, alors est-ce que nous sommes capables de recevoir la parole du Seigneur? Est-ce que d'ailleurs nous sommes capables de nous préparer à la donner aussi, cette parole? Est-ce que nous nous laissons inspirer pour que les paroles d'exhortation que nous pouvons adresser ne soient pas celles de nos propres pensées, mais soient celles du Seigneur. Nous sommes ici avec cette veuve placée devant la parole de Dieu à recevoir par la foi. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Hein, c'est lui qui n'a pas été reçu justement par ceux de Nazareth. Le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Hein, c'est dans l'Apocalypse. Donc, je pense que, enfin, je voudrais tirer comme leçon principale de ce récit de la veuve de Sarepta, qu'elle a reçu et qu'elle nous enseigne à recevoir la parole de Dieu comme telle, à recevoir tout ce qui vient de Jésus, comme étant propre à nous édifier, à nous instruire, à nous fortifier dans la foi pour faire face aux temps difficiles, aux temps de crise, aux temps d'épreuves, et ainsi rester dans l'espérance véritable, parce que nourrie par la parole de Dieu. Le pain, je n'ai pas, il y a certainement d'autres choses à tirer de ce texte, c'est le pain et l'huile, la farine et l'huile, hein, mélangées, qui sont, la farine c'est l'humanité de Christ, et l'huile c'est l'esprit, l'esprit, donc c'est vraiment la vie de Jésus-Christ que nous sommes appelé à partager entre nous et ainsi donc à vivre et continuer à vivre jusqu'à ce que finalement la crise de ce monde soit terminée. Hein, et là, nous pourrons à ce moment-là bénéficier de toute la bénédiction qui viendra sur la terre. Mais jusque-là, c'est en espérance, en partageant chacun ce que nous avons de Christ, que nous pouvons progresser et tenir bon au sein de ce monde. Et voilà la leçon, je pense, principale de ce texte de la veuve. Nous n'avons pas, on peut dire, à être dans ce monde comme des personnes qui sont, on peut dire, remplies d'assurance en elles-mêmes, qui sont brillantes, etc. Nous portons la parole du Seigneur, nous portons l'espérance dans nos cœurs, nous transmettons la parole de la crainte du Seigneur. Et là, il y a vraiment une force, il y a voilà, un soutien pour notre vie mutuelle, parce que nous partageons et nous recevons à travers nos frères et sœurs la parole de Dieu, Jésus-Christ fait chair et Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit pour alimenter notre cœur. Voilà ce que je voudrais vous laisser ce matin. Amen.